journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des fiches, des notes, des mots de tête. Des centaines de milliers de lycéens s'apprêtent à passer le bac dans une semaine, plus que 7 jours pour réviser. Et la mode est à la vidéo sur Internet. Vous saurez tout sur les tutos dans un instant. Dans une semaine également, l'annonce d'un décret très attendu par ceux qui démissionnent de leur travail. Ils seront bientôt indemnisés par l'assurance chômage. Précision à venir. Dans l'actualité également, un rappel sportif avec un 12e titre à Roland-Garros pour Raphaël Nadal, maître absolu de la terre battue. Dans une demi-heure maintenant, fin du suspense, révélation à 8h du nouveau prix du livre Inter. Et puis on parlera aussi du prix du permis de chasse qui coûtera moitié moins cher à partir de demain. Des manifestations monstres à Hong Kong, Pékin dénonce un complot à l'étranger, de l'étranger et du succès des séries télé sur le petit écran. Nouvel Eldorado pour les grandes chaînes.
L'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 est aujourd'hui l'ancien ambassadeur de France en Syrie entre 2006 et 2009, Michel Duclos, qui publie La longue nuit syrienne aux éditions de l'Observatoire.
France Inter.
Et c'est la dernière ligne droite, Sébastien, pour les lycéens qui passent le bac.
Oui, plus qu'une semaine avant les premières épreuves, ce sera le 17 juin à 8h exactement avec la traditionnelle épreuve de philosophie pour les élèves de série générale et technologique et à 9h30 avec le français pour les séries professionnelles. Alors comment les candidats s'organisent-ils? De plus en plus d'entre eux ont recours aux vidéos sur Internet, aux tutos, comme on dit, efficaces mais pas magiques non plus.
Sur la table, le café, les dernières fiches de révision et le téléphone. Juste à côté, Simon, en terminale scientifique, noircit ses feuilles.
J'essaie de regarder un peu différentes sources, revoir les cours, et puis je m'aide quand il y a quelque chose que je comprends pas, je regarde des vidéos, par exemple sur YouTube.
La dernière vidéo que le jeune homme a lancée concerne les cours de sciences.
Toujours dans la série géologie pour les terminales S, nous allons voir quels sont les indices d'épaississement.
C'est à l'oral, donc c'est plus... Il y a des schémas, des trucs, voilà, c'est plus dynamique. Du coup, ça permet de mieux assimiler les choses.
Le grand succès dans les allées de la bibliothèque, ce sont les vidéos de la chaîne Les Bons Profs. Salomé, elle, révise les mathématiques.
En fait, ils font un résumé de chaque chapitre avec un tableau derrière. Et à la fin, ils marquent tout ce qu'il faut savoir par cœur, par exemple. Mais c'est comme un cours, en fait.
Mais elle en a conscience, ça ne remplace pas les cours en format papier. Elle les a d'ailleurs trouvés tout faits sur Internet.
Genre, des fois, c'est plus simple d'entendre. Mais pour apprendre, ça marche pas juste entendre. Faut lire.
Le dernier conseil, c'est un autre lycéen qui le donnera. Il faut s'y mettre à l'avance, car regarder 6 vidéos la veille de l'épreuve, ça ne vous sauvera pas le bac.
Ce serait quand même trop simple. Reportage Pierre-Antoine Lefort de France Bleu Touraine. Et voilà qui ne devrait pas beaucoup aider les plus stressés. Plus de 150 000 jeunes sont toujours en attente de réponse de Parcoursup. Près de 20% des lycéens n'ont pas encore reçu de proposition sur la plateforme d'orientation.
7h34, c'était Sébastien, une promesse du candidat Macron, le chômage, même pour ceux qui démissionnent.
Le principe est inscrit dans la loi depuis l'automne dernier, mais le décret d'application s'est fait attendre. Il aurait dû être publié il y a 3 mois déjà, mais il a pris du retard à cause des désaccords entre patronat et syndicats sur la réforme de l'assurance chômage. Depuis le mois de mars, le gouvernement a repris la main et il devrait annoncer l'entrée en vigueur de cette réforme très attendue le 17 juin prochain dans une semaine, Guillaume Gaven.
Car tout est prêt, la loi Avenir professionnel de septembre dernier est entrée en vigueur au 1er janvier. Elle stipule que si en théorie l'indemnisation est réservée à ceux qui sont involontairement privés d'emploi, il y a des exceptions. Ce qui est nouveau, c'est l'ouverture aux démissionnaires. Ceux qui suivent leur conjoint pouvaient déjà bénéficier d'indemnisation. Désormais, le dispositif est élargi à tous les démissionnaires, sous condition tout de même, avoir travaillé pendant 5 années consécutives et avoir préparé un plan de reconversion ou de création d'entreprise. D'ailleurs, chaque demande sera examinée à la loupe par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, patronat syndicat. En cas d'issue positive, les droits sont les mêmes que pour les autres chômeurs. 2 ans d'indemnisation maximum et une allocation qui représente entre 57 et 75% du salaire brut. Le dispositif devrait profiter à 30 000 personnes chaque année pour un coût évalué par l'UNEDIC à 280 millions d'euros.
Guillaume Gaven, un dernier hommage aujourd'hui en l'honneur des sauveteurs de la SNSM. Ce matin à 10h30, toute la population des Sables-d'Olonne est appelée à marcher en silence en mémoire des 3 sauveteurs morts ce week-end en portant secours à un marin pêcheur parti en mer malgré la tempête. Tragique accident à Lorient
Perpignan. Hier, un couple d'automobilistes a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de la gendarmerie. Pris en chasse, ils ont percuté dans leur course folle deux jeunes enfants de 7 et 10 ans, dont l'un est mort et l'autre grièvement blessé. Ils ont ensuite abandonné leur voiture et sont activement recherchés, risquant jusqu'à 10 ans de prison pour homicide involontaire. À l'étranger, direction la Chine maintenant, qui scrute avec inquiétude la situation à Hong Kong. Manifestation historique hier dans l'ex-colonie britannique, du jamais vu depuis plus de 20 ans, depuis la rétrocession de ce territoire à Pékin. 1 million de manifestants sur 7 millions d'habitants pour s'opposer à un nouveau projet de loi chinois qui vise à autoriser les extraditions judiciaires vers la Chine continentale. Les ressortissants hongkongais craignent ainsi de se retrouver à la merci d'une justice très politisée. Le rassemblement s'est terminé hier soir par des heurts avec la police. Alors comment la Chine observe-t-elle ce nouveau mouvement d'aspiration démocratique? Pas avec bienveillance, la correspondance de Dominique André.
C'est le China Daily, journal officiel chinois anglophone, qui est le premier à monter au créneau ce matin. Le quotidien d'État accuse des forces étrangères de vouloir nuire à la Chine en essayant de créer le chaos. Pour étayer sa théorie du complot, l'éditorialiste écrit que des résidents hongkongais ont été manipulés par l'opposition et leurs alliés étrangers. Toute personne sensée, poursuit l'éditorialiste, devrait soutenir ce projet de loi. Il considère que la future loi autorisant les extraditions vers la Chine a pour but d'empêcher que Hong Kong devienne un paradis pour les criminels. Les réseaux sociaux chinois publient essentiellement des articles de la presse hongkongaise, avec évidemment beaucoup de commentaires nationalistes. Si les Hongkongais continuent comme ça, s'insurge un internaute, on va faire un pays, un système. C'est bien la crainte qui a été exprimée dans l'énorme manifestation d'hier. Ce qu'ils ont fait, ça demande du courage, confie un inconnu. Pékin, Dominique André, France Inter.
Ajoutons que ce matin, les autorités de Hong Kong affirment qu'elles maintiennent le projet de loi contesté. La Grande-Bretagne, à nouveau en campagne à partir d'aujourd'hui. C'est la nuit prochaine que l'on connaîtra la liste définitive des candidats à la succession de Theresa May. Il faudra ensuite un mois avant que le parti conservateur ne désigne son remplaçant. Ils sont plus d'une dizaine à s'être fait connaître. En tête des sondages, le très pro-Brexit Boris Johnson. À Londres, Antoine Gignoux.
Nous ne paierons pas la facture de sortie de l'Union européenne, explique Boris Johnson, à moins d'obtenir des concessions de la part de Bruxelles. Dans les médias, BBC en tête, l'ancien ministre des Affaires étrangères se présente comme l'homme providentiel dont les conservateurs ont besoin pour contrer le parti du Brexit de Nigel Farage, arrivé en tête aux élections européennes. Contre toute attente, ses anciennes bourdes diplomatiques, ses mensonges pourraient bien le servir, explique Tim Bale de la Queen Mary University.
Boris Johnson a une personnalité très forte et c'est ce dont les conservateurs ont besoin pour faire face à Nigel Farage. Et puis dans la tête des gens et donc dans la tête des militants, il est associé à un discours très pro-Brexit. Après tout, c'est lui qui a dirigé la campagne de 2016 pour quitter l'Union européenne. Il est extrêmement bien positionné.
D'autant mieux positionné que son principal rival, Michael Gove, est depuis deux jours au cœur d'un scandale, obligé de reconnaître, à la suite d'un livre, qu'il a pris à plusieurs reprises de la cocaïne lorsqu'il était jeune, à une époque où il était, tout comme Boris Johnson, jeune journaliste. Londres, Antoine Gignoux, France Inter.
On revient en France avec cette autre promesse de campagne du candidat Macron, un permis de chasse à 200 euros au lieu de 400. Ce sera effectif à partir de demain. Une évolution attendue et normale pour les chasseurs. Un nouveau coup dur en revanche pour la biodiversité, pour les opposants à cette mesure. Explication Lisa Guyenne.
Divisé par deux, le prix du permis de chasse, c'est tout simplement logique pour Willy Schren, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Depuis les années 60, en effet, l'État délègue de plus en plus de tâches aux chasseurs. C'est donc une juste rétribution, selon lui.
On s'est substitué au niveau de l'État, d'abord au niveau national sur certains points, comme la gestion administrative des dégâts et son paiement. Et après, il y a eu pas mal de petites tâches, je dirais, départementales et régionales. Donc Emmanuel Macron n'a fait que réparer l'histoire. Il est normal de nous rétribuer puisqu'on fait des missions pour l'État.
Sauf que les permis de chasse servent notamment à financer plus de 60% du budget de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et la baisse du prix du permis représenterait un manque à gagner de 18 millions d'euros. 18 18 millions en moins pour la protection de la nature, déplore Yves Verriac, le directeur général de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
On n'a pas les moyens aujourd'hui d'une politique ambitieuse en matière de biodiversité. On ne peut pas créer les espaces naturels protégés qu'on devrait, on ne peut pas développer les plans nationaux d'action qu'il faudrait conduire. On nous répond qu'il n'y a pas d'argent. C'est quand même étonnant s'il n'y a pas d'argent qu'on fasse un cadeau de 20 millions aux chasseurs les plus riches.
Pour absorber ce manque à gagner, l'État compte sur une augmentation du nombre de permis de chasse, moins cher et donc plus attractif. Principale cible de ces nouveaux tarifs, les jeunes de moins de 25 ans.
Lisa Guyenne.
Et pour terminer, Sébastien, le carton des séries quotidiennes à la télévision.
Le fameux Plus belle la vie sur France 3 a longtemps été seul sur ce créneau, mais l'offre depuis s'est étoffée. Chaque chaîne ou presque a désormais son feuilleton quotidien. Un si grand soleil sur France 2 est un vrai succès, tout comme Demain nous appartient sur TF1. TF1 qui prend même le risque ce soir de passer la série en prime time. Il faut dire que l'audimat bat des records, Alexandra Hakoun.
Un total de 10 millions de téléspectateurs minimum chaque soir, avec une recette à quelques différences près identiques. Un savant cocktail de romanesque.
T'es fou.
De drame.
Écartez-vous, je ne veux pas vous faire de mal.
Vous ne faites pas tirer.
De suspense. Des séries surtout chorales, élément indispensable, qui explique sans doute pourquoi, depuis Plus belle la vie, il y a 15 ans, toutes les tentatives avaient été des échecs, explique Thomas Desmatéis. Il est le producteur d'Un si grand soleil sur France 2.
À l'époque où en fait Plus belle la vie avait rencontré le succès, il y avait une forme de précipitation un peu, et pas toujours la réflexion nécessaire. Quand un certain nombre d'histoires surviennent dans la vie de 20, 30, 40, 50 personnages, on a quelque chose qui est certainement beaucoup plus chouette pour le public.
Et c'est toute la filière qui a su s'adapter, permettant à la France de rattraper son retard sur ses voisins européens, mais en jouant sur les horaires de diffusion. Chez nous, aucune n'a cannibalisé l'autre, au contraire, nombre de téléspectateurs sont même clients des trois, des aspirateurs à audience devenus indispensables aux chaîne. Anne Vio, directrice artistique de la fiction TF1.
C'est plus qu'une vitrine, un feuilleton quotidien. C'est une formidable façon de fidéliser nos téléspectateurs. On voit qu'on est effectivement capable d'avoir une fiction française plus industrialisée. C'est très important.
En Grande-Bretagne, Coronation Street est diffusée sur ITV depuis 1960.
Voilà, le carton des séries quotidiennes à la télé, c'était Alexandra Hakoun.
Merci Sébastien Legénie.